Radio Prague, les informations.
Le président Miloš Zeman a nommé le nouveau gouvernement de Bohuslav Sobotka. Ce nouveau gouvernement demandera la confiance aux députés autour du 18 février. Et à Prague, la fermeture d'une usine pharmaceutique entraîne la suppression de 275 emplois. Ce sont les principaux titres de ce bulletin d'information. Le président Miloš Zeman a nommé le nouveau gouvernement de Bohuslav Sobotka, le social-démocrate, ce mercredi après-midi, 95 jours après les élections législatives anticipées d'octobre dernier. La République tchèque a donc un nouveau cabinet, une coalition tripartite centriste réunissant sociaux-démocrates, représentants du mouvement ANO et chrétiens-démocrates. Les 17 ministres se sont retrouvés dans l'après-midi pour leur première réunion. L'accord de coalition prévoit la fin de certains frais de santé, la hausse du salaire minimum et des pensions de retraite, ainsi qu'un gel des impôts d'ici à 2015, avec l'objectif de respecter les critères de convergence imposés par Bruxelles, et notamment le fait de maintenir un déficit du budget de l'État inférieur à 3% du PIB. Le nouveau gouvernement demandera la confiance aux députés autour du 18 février. C'est le Premier ministre et leader social-démocrate Bohuslav Sobotka qui a fait cette annonce au journal après la première réunion des ministres de son cabinet ce mercredi après-midi. La coalition tripartite peut compter sur le soutien de 111 députés à la chambre basse du Parlement et devrait donc obtenir cette confiance sans difficulté. Les ministres ont également travaillé sur la mise en place d'un plan législatif et sur leur déclaration de programme. Leur prochaine rencontre aura lieu lundi. Le Premier ministre sortant, Jiří Rusnok, a remis l'agenda gouvernemental ainsi que l'une des 7 clés donnant accès au joyau de la couronne tchèque à son prédécesseur, le social-démocrate Bohuslav Sobotka. Jiří Rusnok lui a donné des conseils sur la façon de mener son cabinet. En retour, le leader social-démocrate l'a remercié, a salué son action et considéré que son gouvernement dit d'expert a mené à bien son mandat. Ce cabinet Rusnok, nommé contre l'avis de tous par le chef de l'État Miloš Zeman, a été en démission durant 169 jours. Il s'agit d'un record pour la jeune République tchèque. Nucléaire à présent. En accord avec le gouvernement sortant de Jiří Rusnok, les sénateurs ont refusé de donner leur aval à la volonté de la Commission européenne de prendre une nouvelle directive fixant un cadre à la sécurité des centrales nucléaires. La Chambre haute considère qu'il s'agirait d'une intrusion abusive de l'Union européenne dans les prérogatives des États membres. Jiří Rusnok, avant de quitter son costume de Premier ministre ce mercredi, a salué la décision des sénateurs. Il a cependant rappelé qu'il était peu probable qu'une majorité de pays membres de l'Union européenne s'oppose à ce projet de directive, laquelle devrait poser les bases d'une agence européenne commune pour la sécurité de l'énergie atomique. La multinationale pharmaceutique Baxter a annoncé cette semaine la fermeture de son usine de fabrication de vaccins à Jevaní, près de Prague. En conséquence, ses 275 employés perdront leur emploi. L'entreprise a déclaré à l'agence de presse Cheteka qu'elle se concentrerait désormais sur la fabrication de produits à base de plasma sanguin. La société Baxter était également censée fournir à la République tchèque des vaccins contre la grippe porcine, mais le gouvernement a renoncé à cet achat car, selon le ministère de la Santé, la firme n'était pas en mesure de garantir que le vaccin serait sans effet secondaire. On termine avec la météo. Ce jeudi, jour de la fête des Robin, qu'ils soient compagnons d'hommes chauves-souris ou alors qu'ils vivent dans les bois, le jour gagne 2 minutes sur la nuit. Beaucoup sont les Tchèques à ne pas percevoir la différence puisque tout le pourtour ouest de la Bohême et le sud de la Moravie restent couverts par des nuages menaçants. Ailleurs, des éclaircies sont attendues. Les températures maximales vont de moins 3 à 1 degré pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information. Tout de suite, la suite du programme avec Lucie Dreselova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de votre magazine d'actualité tchèque. Merci à Pierre Meignon pour son bulletin d'information. Au sommaire, aujourd'hui, deux sujets d'actualité vous sont proposés par l'équipe de Radio Prague. Le président Miloš Zeman vient de nommer ce mercredi après-midi le nouveau gouvernement de coalition dirigé par le chef social-démocrate Bohuslav Sobotka. Cela sera à Guillaume Narguet de vous en dire plus. Ensuite, nous allons revenir à la conférence organisée au Sénat ce mardi qui portait sur la protection des consommateurs dans l'Union européenne. Quelles conclusions et quelles perspectives dans cette matière, c'est également à découvrir dans quelques instants. Et enfin, au programme de cette émission, la rubrique Histoire, à l'occasion de la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, Yaroslava Gisiblova y consacre sa contribution ce mercredi. Bonne écoute à toutes et à tous. Ça y est, fini le provisoire. Depuis ce mercredi, la République tchèque possède un nouveau gouvernement. 3 mois, jour pour jour, après la tenue des élections législatives, le cabinet dirigé par le social-démocrate Bohuslav Sobotka a été nommé ce mercredi par le président de la République. La coalition tripartite, composée des sociaux-démocrates, du mouvement d'action des citoyens mécontents et des chrétiens-démocrates, succède au gouvernement intérimaire de Jiří Rusnok, finalement resté en place plus de 6 mois. Un sujet de Guillaume Narguet.
On ne peut jamais être sûr de rien avec la politique tchèque. L'éclatement d'un nouveau scandale ou les discordes au sein d'une coalition étant susceptibles de faire tomber un gouvernement à tout moment. Si l'on remonte jusqu'à l'affaire du financement du Parti civique démocrate, ODS, en 1998, affaire qui avait alors entraîné la chute de Václav Klaus, aucun premier ministre tchèque, à l'exception d'un certain Miloš Zeman, entre 1998 et 2002, n'est resté en poste durant la durée supposée de 4 ans de son mandat. Néanmoins, à compter de ce mercredi, et ne serait-ce que pendant les prochains mois, et plus, si affinité, on n'entendra plus parler de gouvernement intérimaire, de gouvernement démissionnaire mais toujours en place, de probable future coalition gouvernementale, de candidats aux fonctions ministérielles probablement prochainement nommés, ou encore de 2 premiers ministres comme cela était le cas depuis le 17 janvier dernier avec Bohuslav Sobotka et Jiří Rusnok. Non. Qu'on se le dise, la République tchèque est désormais dirigée par un gouvernement en bonne et due forme, par une coalition légitime, fruit des négociations qui ont suivi les élections anticipées d'octobre dernier. Dès ce mercredi, aussitôt la cérémonie de nomination de ses 16 ministres, parmi lesquels 3 femmes achevées au château de Prague, ce gouvernement s'est réuni pour se mettre au travail. Nous devons procéder rapidement. 3 mois après les élections, nous avons déjà perdu suffisamment de temps comme ça. Nous ne pouvons donc pas nous permettre d'hésiter et de prendre encore plus de retard. L'objectif pour Bohuslav Sobotka est désormais de présenter sa déclaration de politique générale dans les plus brefs délais à la Chambre des députés, et ce, afin d'obtenir la confiance de celle-ci. Pour cela, le gouvernement, qui dispose d'une confortable majorité à la Chambre basse, dispose, selon la Constitution, de 30 jours à compter de sa nomination. Il ne s'agira donc là, a priori, que d'une formalité. Ce qui le sera beaucoup moins, ce sera le respect des priorités établies par ce nouveau gouvernement pouvant être qualifié de centre-gauche et franchement plus pro-européen que le précédent cabinet de Petr Nečas, il est vrai, lui, particulièrement eurosceptique. La relance de la croissance économique, le soutien à l'emploi, une meilleure collecte des impôts et utilisation des milliards d'euros en provenance des fonds européens, ou encore, plus généralement, l'amélioration des services publics mis à la disposition des Tchèques sont quelques-unes de ses priorités. La composition de la coalition formée par Bohuslav Sobotka laisse toutefois d'ores et déjà planer certains doutes sur sa viabilité même et celle de son programme. Si la réunion des sociaux-démocrates et des chrétiens-démocrates au sein d'un même cabinet ne constitue pas une première, la présence du mouvement populiste ANO constitue toujours une énigme. La question qui se pose pour beaucoup aujourd'hui est de savoir ce qu'il convient d'attendre de la formation dirigée par le milliardaire Andrei Babiš, un homme d'affaires influent nommé à la tête du ministère des Finances. Fondée en 2011, son action des citoyens mécontents a séduit les Tchèques avec près de 20% de suffrage lors des législatives, soit le 2e meilleur score juste derrière les sociaux-démocrates, en promettant d'abord de mettre de l'ordre dans la conduite de l'État et en réduisant le gaspillage et bien entendu la corruption et le clientélisme qui ont miné les gouvernements de droite de ces 8 dernières années. Bref, tout un programme.
Une conférence sur la protection du consommateur dans l'Union européenne s'est tenue mardi à Prague, au Sénat. L'événement a rassemblé des représentants du ministère de l'Industrie et du Commerce, des organes de contrôle ainsi que des associations qui ont fait de la protection du consommateur leur raison d'être. Au micro de Radio Prague, l'organisatrice de la conférence, Olga Sehnalova. Eurodéputée depuis juin 2009, elle est également membre du comité du marché intérieur et de la protection du consommateur au Parlement européen. Une problématique qui lui était familière, car en décembre dernier, elle a achevé un rapport sur la mise en place de la directive européenne de mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises. On écoute Olga Sehnalova. Selon moi, la législation relative à la protection du consommateur actuellement en vigueur dans l'Union européenne ne nécessite pas de révision majeure. Ce qu'il faut avant tout, c'est assurer l'application de cette législation. Et c'est là-dessus que portent les débats. Si les standards européens sont élevés, il faut encore transposer les directives et appliquer correctement les règlements. Néanmoins, en matière de protection des consommateurs, la République tchèque ne figure pas parmi les élèves les plus brillants. Olga Sehnalova. De manière générale, la mise en place des règlements n'était pas le point fort de la République tchèque, même si ces deux dernières années, nous nous sommes assez améliorés pour nous retrouver dans la moyenne européenne. En revanche, ce qui est de la protection des consommateurs, une étude de 2012 de la Commission européenne nous a classés parmi les 5 pays de l'Union où cette protection est la plus faible. Le marché intérieur ne se résume pas à la mise en pratique des règles au niveau national. Ce marché commun a aussi une dimension transfrontalière et la République tchèque, à travers ses organes de régulation et de contrôle, coopère activement avec les autres États membres. Ainsi, l'inspection tchèque du commerce et la direction de la douane contribuent à la base des données européennes RAPEX, le système d'échange rapide de l'information sur les produits dangereux, et participent à l'échange d'informations dans le cadre de CPCS, le système de coopération sur la protection du consommateur. Olga Sehnalova insiste sur le caractère transfrontalier de la protection du consommateur. La République tchèque n'est pas une île au sein de l'Europe. Elle se trouve à l'intérieur du marché européen et ses normes sont le reflet de ce statut. Quant à leur application, il faut renforcer la coopération interétatique. En ce moment, la Commission prépare une révision du règlement qui renforce la coopération entre les organes de contrôle. Dans sa nouvelle version, le texte devrait, par exemple, permettre à ces organes de résoudre les problèmes qui impliquent plusieurs États membres. Ce vendredi 31 janvier s'achèvera la période de 3 mois de consultation publique sur la révision du dérèglement numéro 2006-2004 relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs. À la fin de l'année 2014, la Commission européenne devrait présenter un rapport basé sur les observations et remarques des différents acteurs ayant pris part à cette consultation. Prochainement donc, l'inspection tchèque du commerce ou la direction de la douane pourrait se retrouver avec un champ d'action élargi à tout le territoire de l'UE à 28. C'est la fin de ces faits événements. Merci de votre attention. Mais restez sur Radio Prague. On retrouve notre traditionnelle rubrique du mercredi, la rubrique Histoire. Le 27 janvier a été proclamé par l'ONU, journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l'Holocauste, une des façons d'honorer la mémoire des personnes déportées et exterminées et de placer des pierres devant leur dernier domicile. Depuis 2008 et la pose de la première de ces pierres à Prague, on trouve aujourd'hui plus de 300 de ces petites plaques métalliques encastrées dans le sol et commençant par les mots « ici habité ». Yaroslava Gisiblova s'est rendue sur leurs traces.
Chapitre de l'histoire.
Des pierres sur lesquelles on trébuche, pas vraiment, mais qui incitent le passant à s'incliner devant la victime du nazisme et à lire le texte gravé dans la petite plaque métallique en laiton enfoncée dans le sol devant le bâtiment où résidait la personne déportée. Les plaques commémoratives commencent toutes avec les mêmes mots « ici habitait », suivi du nom, des dates de naissance et de déportation et du lieu de la mort. L'idée de rappeler de cette manière la mémoire des personnes déportées et exterminées a vu le jour en 1993. Ces petits dés de béton ou de métal de 10 cm de côté, les dites Stolperstein, sont une création de l'artiste berlinois Günther Demnig, ce qui explique l'origine de cette expression qui signifie pierre d'achoppement ou pierre sur laquelle on peut trébucher. En République tchèque, les premières pierres ont été posées en 2008 à Prague et à Kolíně, raconte Bianca Lipanská, représentante tchèque du projet Les pierres des disparus.
Je pense qu'il y en a en ce moment près de 300 à Prague, d'autres se trouvent à Brno, Olomouc, Ostrava, Třeboň. Le premier pavé de mémoire vient d'être installé à Český Těšín et d'autres se trouvent également dans des petites villes et communes comme Kostelec et Neratovice.
Ces pierres commémoratives ne sont pas dédiées uniquement aux victimes juives de l'Holocauste, comme l'observe Bianca Lipanská.
Elles honorent la mémoire des personnes pourchassées par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, juifs, roms, sans-terre, ennemis politiques, membres de la résistance, homosexuels et d'autres. Aussi, l'année dernière a été scellée à Prague une pierre à la mémoire d'un combattant et membre du mouvement Sokol.
Les victimes de l'Holocauste se comptent par millions. Avant la fin de 2013, plus de 30 000 pierres commémoratives avaient été installées en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Hongrie, en Pologne et en République tchèque. Bianca Lipanská explique comment se passe la recherche des personnes déportées auxquelles une pierre est ensuite dédiée.
Nous sommes contactés par les proches des personnes déportées et assassinées. Ces personnes n'ont souvent pas de tombe et leur famille souhaite avoir un endroit où elles pourraient se souvenir d'elles. Parmi les demandes que nous recevons, il y a des noms de personnes inconnues, aussi d'autres plus connues comme la famille pragoise de Winternitz, à la mémoire de laquelle les pierres ont été récemment posées devant leur villa.
Le plus gros nombre de plaques se trouve dans la vieille cité juive de Prague, où on les appelle aussi les pierres dites disparues, en lien avec le projet du musée juif intitulé « Les voisins disparus ». Souvent, les Stolperstein sont scellés dans les trottoirs en faisceau pour que les membres des familles exterminées se retrouvent ensemble de cette manière. Ainsi, il n'est pas rare de trouver à Prague 3 ou 4 pavés de mémoire devant un même immeuble. C'est le cas justement de la famille Winternitz, Josef, docteur en droit, déporté à Terezín en 1943 et mort un an plus tard à Auschwitz. Son fils Petr, qui a subi le même sort, ainsi que Stepan Michael et Laure Winternitz, déportés tous les deux en 1942 et assassinés en 1944 à Auschwitz. Leur seul crime, être né juif. Depuis la naissance de l'idée des Stolperstein en 1993, les pierres sont produites par le fondateur du projet Günther Demnig. Les plus de 33 000 plaques commémoratives créées jusqu'à ce jour ont toutes été faites à la main par respect pour les victimes, car ces pierres rappellent leur destin, souligne Bianca Lipanská.
Günther Demnig et son équipe fabriquent ces pierres dans leur atelier à Berlin. Chaque pièce est faite à la main, chaque nom est gravé séparément.
En novembre 2005, l'ONU a proclamé le 27 janvier, jour de la libération du camp d'extermination d'Auschwitz, journée de commémoration en mémoire des victimes de l'Holocauste. Pourquoi, si tard, 60 ans après la fin de la guerre, l'historien du musée juif Michal Frankl essaye d'expliquer.
Ono to souvisí do značné míry s takovým dědictvím studené války, která Cela est lié dans une certaine mesure à l'héritage de la guerre froide qui ne permettait pas de procéder à une réflexion approfondie des conséquences de la Seconde Guerre mondiale et de l'Holocauste. Après une amélioration passagère dans les années 1960, il a fallu attendre les années 1990 pour que la réflexion et les tentatives de s'acquitter du passé s'intensifient. Aujourd'hui, Auschwitz est le rappel de sa libération le 27 janvier 1945, est le symbole de la mémoire commune entre l'Ouest et l'Est, autrefois communiste.
Le 20 janvier, 72 ans se sont écoulés depuis la conférence de Wannsee, lors de laquelle les hauts responsables du Troisième Reich ont décidé de l'organisation administrative, technique et économique de la solution finale à la question juive. Depuis quand le monde était-il au courant de ce qui se passait dans les camps nazis, Michael Frankl?
Depuis déjà les années 1930, le monde était relativement bien informé, quoique sans plus de détails, de la situation dans les usines de la mort. On savait que Dachau et d'autres camps de concentration étaient des lieux extrêmement dangereux. On a su à partir des années 1939-1940 que les Juifs polonais mouraient dans des ghettos. En ce qui concerne l'extermination systématique du peuple juif, les nouvelles ont commencé à parvenir en Occident à partir de 1942.
Commémoré le 27 janvier à plusieurs endroits de la République tchèque, dont le Sénat, la journée du souvenir des victimes de l'Holocauste a été l'occasion de rendre hommage aux 80 000 victimes tchèques de la Shoah. Au moment de la création du protectorat de Bohême-Moravie, 120 000 juifs vivaient sur son territoire.
Ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous a été présenté par Lucia Drexalova. Retrouvez tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Ahoy.